Je vais aller dans 2 Corinthiens 1, 12 à 11, dans le ministère, l'intégrité dans notre vie. J'aime beaucoup le livre de Daniel, Daniel le prophète, parce que c'était un homme intègre. Je dis un homme, là, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ça a été un jeune homme. Mais avant de commencer la lecture, on va lire par petits segments 2 Corinthiens est reconnu comme étant l'épître ou la lettre de réconciliation. Si on cherche un enseignement sur la réconciliation, c'est dans 2 Corinthiens qu'on le trouve. Et ça va vous arriver de devoir vous réconcilier. Je parle pas avec votre voisin qui laisse japper son chien jusqu'à 3 heures du matin, là. Je parle avec des gens dans l'Église ou dans d'autres églises. La réconciliation fait partie de la vie chrétienne parce qu'on a des opinions différentes, on voit les choses parfois différemment, on peut se heurter, frères et sœurs, et on doit se réconcilier. La réconciliation est aussi naturel pour un chrétien que l'eau est nécessaire pour la vie d'un être humain. Si on ne se pose pas la question, là, l'eau, on a besoin de l'eau. La réconciliation, c'est pareil. On ne peut pas être des croyants, surtout dans la même Église, et avoir des conflits. Je vous raconte une petite histoire, puis je vais faire ça vite, là. Mais on avait un distributeur en Europe. Et on a changé de distributeur. Distributeur, ça veut dire que c'est eux qui reçoivent nos livres et ils les distribuent dans les différentes librairies. Et ce frère-là, Ariane, qui s'appelle, vous le rencontrerez pas, était extrêmement choqué après moi parce que j'ai fait ça, parce que j'ai changé de distributeur pour différentes raisons. J'y ai écrit, il me répondait pas, puis j'ai essayé de l'appeler, il veut pas me parler. Il est choqué après moi, tu sais. On va dire, nous autres, il est choqué noir, tu sais. Et puis, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je pense, il y a des rencontres, comment ça s'appelle, donc, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais à Paris, il y a une rencontre d'éditeurs francophones. Et on y va, et je sais qu'Ariane va être là, et ils ont un stand, là, ils ont une très belle maison d'édition, très, très belle, Excelsis. Et je m'en vais voir Ariane, et là, c'est un grand bonhomme, là, tu sais, il aurait pu poigner, puis pas en deux, là, mais je m'en vais voir Ariane, et je dis à Ariane, je dis, ah, j'ai vraiment un problème, Ariane. Et il est comme ça, puis. C'est quoi? C'est un Hollandais, un grand Hollandais. Et je dis, écoute, j'ai dit, imagine-toi, là, si je meurs aujourd'hui, j'arrive au ciel, puis je suis obligé de dire au Seigneur, je suis en chicane avec Ariane, puis on n'a pas été capable de régler ça avant d'arriver ici. Je dis, hey, je vais être gêné, je ne saurais pas quoi dire, je vais être gêné, effrayant. J'ai dit, probablement toi aussi, là, si on est des deux dans. Ça serait bien mieux qu'on règle ça là, comme ça, quand on va arriver au ciel. Ça va être réglé. Et là, Ariane, j'ai dit, dis-moi ce qui va. Là, il a déblatéré, j'allais dire déblatéré. Il m'a raconté qu'est-ce qu'il aimait pas, puis etc. Puis on s'est réconciliés, puis Ariane m'a parlé de sa famille, il m'a parlé de différentes affaires, puis il n'y en a plus de conflits. Et je pense que c'est important de désamorcer les conflits s'il y en a. Moi, je pense que c'est important, c'est essentiel. Et 2 Corinthiens, c'est l'épître de la réconciliation. Et Paul, vous savez, le Nouveau Testament, c'est pas la théologie systématique selon Paul. Et on arrive dans un chapitre où il est question de réconciliation. Et voici 2 Corinthiens, ça fait partie de. J'aimerais beaucoup que Paul ait écrit un livre sur la théologie systématique, mais c'est pas arrivé. Mais le Nouveau Testament, c'est pas un livre de théologie systématique. Paul a écrit à du vrai monde pour confronter des vraies situations dans l'Église avec une application théologique. Et je dis ça pour dire que si on dit que la deuxième épître aux Corinthiens, c'est l'épître de la réconciliation, c'est parce qu'il y a un problème réel qui a existé entre l'Église de Corinthe et Paul et une autre personne qui n'est pas nommée. Plusieurs pensent que c'est peut-être le monsieur dans 1 Corinthiens 5 qui est accusé d'inceste. Plusieurs pensent que c'est peut-être lui qui... Mais on ne sait pas. Paul est assez sage pour ne pas le nommer, pour même pas nommer la cause de la dissidence, mais il y a un problème. Et j'ai intitulé le message « L'intégrité dans le ministère ». L'intégrité intègre. Daniel 1, il avait peut-être 14, 15, 16 ans. C'était un jeune homme dans la cour du roi, dans le luxe du roi Nebuchadnezzar. Et Daniel s'est tenu ferme. Daniel a été intègre dans ses choix, dans ses décisions. Et franchement, s'il ne l'avait pas été, pas grand monde l'aurait su. Parce que c'était pas, ça passait pas, c'était pas une télé-réalité, cela, là. Hein? C'était très intime entre les gens que le roi avait choisis et le roi lui-même. Et il y a ses amis aussi. Ses amis qui se retrouvent dans Fournaise, dans le chapitre 4, Daniel n'est pas là, mais ses amis sont là. Les trois amis, ils se retrouvent dans Fournaise. Encore une fois, là, tu sais, c'est pas une image que, c'est pas une allégorie que la Bible nous raconte. C'est arrivé comme c'est écrit. Ils se sont retrouvés dans une fournaise. Et il y avait juste à adorer la statue du roi, puis c'était correct. Ils sortaient de la fournaise. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, le Dieu qu'on sert va nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas, c'est pas grave, on reste dans la fournaise. Ils ont été intègres. Et dans 2 Corinthiens, Paul parle de l'intégrité de son ministère. Paul avait dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, qu'il avait l'intention d'aller en Macédoine et de visiter Corinthe, de revenir à Corinthe. Et Paul a changé ses plans. Et on sait qu'à l'église de Corinthe, il y avait c'est au début de l'église, hein, comme en Galatie, il y a des gens, des judaïsants, qui vont contester le ministère de Paul, qui vont contester la personne de Paul, qui vont contester le message de Paul. Et là, ils en profitent parce que Paul a changé ses plans, il explique pourquoi. Et ils en profitent pour dire, Paul n'est pas un homme de parole. Paul dit n'importe quoi. Paul dit, je vais y aller, puis finalement, il n'y va pas. Et Paul dit, non, non, non. Non, 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 c'est pas comme ça, là. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de un virevant là, qui ballotte, là. Si ça vante à gauche, je vais aller à gauche. Si ça vente à droite, je vais aller à droite. Puis si ça vente pas, je ne bougerai pas. Pas comme ça. Si je dis quelque chose, je vais le faire. Et si je ne le fais pas, il y a une raison. Donc, on va lire les versets 12 à 14 pour débuter, où Paul parle de sa conscience. Ce qui fait notre gloire, je vais revenir sur le mot gloire parce que c'est un peu surprenant de lire ça, ce qui fait notre gloire, voyons donc, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde. Et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur. Paul revendique une chose, c'est que sa conscience est en paix. Sa conscience témoigne que Paul a exercé son ministère avec une sainteté et une sincérité qui venaient de Dieu. La conscience d'une personne, vous savez, on a toute une conscience, hein? La conscience, c'est ce petit jugement-là qu'on a à l'intérieur de nous, croyants ou incroyants. Tout être humain a une conscience qui nous dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Maintenant, la conscience, selon Paul dans Romains 2, versets 14 à 16, la conscience n'est pas l'ultime juge. C'est pas parce que ma conscience me dit que c'est. Par exemple, si je me dis, écoutez, je payais cette taxe, mon gouvernement, là, que si je peux en sauver un peu en cachant des choses, ça va faire du bien. Ma conscience me dit que c'est correct, ça. Mais c'est pas correct. Parce que le Saint-Esprit nous dit d'être droit devant les autorités. Comme croyant, notre conscience est soumise au Saint-Esprit. Même si il y a des choses qu'on juge bien, qu'on juge mal, le monde va juger sans le Saint-Esprit. Mais en tant que croyant, il y a quelque chose qui nous dit, même si c'est accepté dans le monde, non, c'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas honnête. Donc, Paul parle de la conscience et dans l'Épître aux Romains et ici, mais ici, il dit que sa conscience est pure. Sa conscience, il s'est conduit avec sainteté et avec justice, avec sincérité. La sainteté, c'est ce qui décrit la vie du croyant à l'extérieur, à l'écart de la corruption du monde. Ça, c'est la sainteté. Nous sommes saints. Vous serez saints car je suis saint. C'est ce que Dieu dit. Et ça, c'est comment on se comporte dans un monde corrompu, dans un monde déchu. On est saint. On ne va pas se comporter de la même façon que les incroyants. Et Paul dit, je ne me suis pas comporté avec vous comme les incroyants. Et il a été sincère, l'absence de tromperie, d'hypocrisie, de faux raisonnement. Paul dit, j'ai été saint et sincère envers vous. Et c'est ce qui caractérisait l'apôtre Paul dans le monde, la sainteté et la sincérité. Et je vous propose, frères et sœurs, qu'on en fasse deux des caractéristiques qui devraient nous identifier, d'être des gens, pas juste dans l'Église, et surtout pas juste dans l'Église, des gens qui sont saints, que le monde voit qu'on est différent et qu'on est sincère. Notre oui est oui et notre non est non. Et Paul, il dit, car c'est ce qui fait notre gloire. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même, vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Tu sais, on lit ça, puis on se dit, t'es fier de lui, Paul. Il dit, je suis votre gloire. Mais ce que ça veut dire, c'est, on pourrait traduire le mot gloire, c'est pas le mot doxa, c'est un autre mot, par être fier. Je prends l'exemple de mon frère Nelson avec son sirop d'érable. Moi, j'en achète. Et il peut être fier de son sirop d'érable parce que il est bon. Je sais qu'il y en a d'autres frères qui en font, là, mais il est bon. Et comme entrepreneur, de faire un bon produit, ça nous rend fiers. Je suis fier de mon produit. Pas gêné de le vendre. Je ne suis pas gêné de le mettre sur les tables parce que je suis fier de mon produit. C'est ça que Paul est en train de dire. Je suis fier de l'Église de Corinthe. Je suis fier de vos positions doctrinales. Je suis fier de vous, comme vous êtes fier de moi, de ce que j'ai fait pour vous. Vous voyez, Paul n'est pas en train de dire, en sous-entendu, peut-être devrait faire une petite statue de moi devant l'Église, là. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il est fier de l'Église. Il est heureux de ce que l'Église est devenue. Au verset 15, les projets de voyage initiaux 15 et 17. Dans cette persuasion, c'est un drôle de mot, ça aussi, dans cette persuasion, on pourrait lire dans cette assurance, dans cette confiance en lui, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Paul continue de défendre son intégrité en expliquant la séquence d'événements qui l'a mené à changer ses plans de voyage. Paul avait déjà écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, comme je vous l'ai dit, qu'il avait l'intention de passer par Corinthe en allant en Macédoine et de passer un temps en Macédoine, de revenir par Éphèse et de repasser encore une fois à Corinthe. C'est pour ça qu'il dit une seconde faveur ou une double faveur, parce qu'il pensait d'aller à Corinthe deux fois. Mais après avoir écrit 1 Corinthiens, manifestement, Paul a changé d'avis et il va expliquer plus tard pourquoi il a changé d'avis. Donc, Paul avait prévu de rendre visite aux Corinthiens en premier. Il était en tête de liste de ses projets. Et il voulait que son ministère, sa présence, leur profite deux fois plutôt qu'une. Et même après la courte visite de Paul à Corinthe, il semble que ça s'était mal passé. Est-ce que c'est 1 Corinthien ou entre 1 et 2 Corinthiens? C'est pas tellement clair. Plusieurs pensent qu'entre 1 et 2 Corinthiens, il y aurait eu d'autres correspondances. Mais en tout cas, quelqu'un a accusé Paul de duplicité ou de tromperie, c'est ça que ça veut dire, de duplicité, de dire une chose et de ne pas le faire. En d'autres termes, Paul avait dit oui, je vais y aller, mais finalement, ce n'était pas sérieux, il n'était pas sincère. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, au verset 37, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Paul a peut-être ici pris cette expression-là, le oui et le non, pour ramener les Corinthiens à l'enseignement du Seigneur, que ce que Paul fait, c'est conforme aux enseignements du Seigneur. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est pareil pour nous. Quand on dit oui, c'est oui, puis quand on dit non, c'est non. Maintenant, ça se peut, hein, parce qu'on n'est pas, on n'a pas la science infuse, là. Ça se peut que moi, je dise, voici, j'aimerais ça aller à telle place, et parce qu'il va y avoir de la neige, ou je ne sais pas quoi, je vais être malade, ou j'irai pas. Ça ne veut pas dire que j'ai dit n'importe quoi. Ça veut juste dire que mes plans ont changé pour des raisons valables. Et c'est ce que Paul explique dans les versets 18 à 22. Paul parle des témoins de son intégrité. Qui est témoin de son intégrité? 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Là, Paul va utiliser une expression assez forte, là. Il va appeler Dieu comme témoin. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis nos cœurs, dans nos cœurs, les arts de l'Esprit. Donc, Paul commence par appeler Dieu comme témoin. Dieu est fidèle. Et Dieu, pas Dieu, mais Paul va utiliser une argumentation qui est courante chez les rabbins à cette époque-là pour justifier son point. Il va partir de quelque chose de beaucoup plus grand et important, la parole de Dieu, Dieu lui-même, pour en venir à sa visite à Corinthe ou son comportement face aux Corinthiens. On a été fidèle dans la proclamation de l'Évangile. Dieu est témoin qu'on a été fidèle. Pas juste lui, mais son équipe. Hein? Silas, Timothée, il avait prêché le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et il n'hésitait pas entre le oui et le non. Il avait prêché Jésus-Christ d'une façon directe. S'il a été comme ça dans la prédication de l'Évangile, à combien plus forte raison dans sa proposition d'aller vers l'Église de Corinthe était aussi fidèle, elle était aussi sincère. Et Paul va dire aux Corinthiens, on fait tous partie de l'Église, on est tous unis. Comment pensez-vous que je vais vous mentir en pleine face? Et il va utiliser quatre termes qui sont encore valables aujourd'hui pour nous garantir que le salut ne se perd pas, que le salut nous unit. Hein? Il va commencer par dire affermi. Hein? On est affermi. Et c'est dérivé d'une terminologie juridique dans le temps, dans le monde méditerranéen. C'est un terme technique qui validait, qui confirmait une vente, une transaction. Elle était affermie. Et Paul dit, Dieu nous affermit. Paul utilise le mot pour montrer que c'est Dieu lui-même qui affermit la relation entre lui et les croyants, entre lui et l'Église de Corinthe. Entre lui, c'est Dieu, entre lui et Paul. Et tout ce monde-là font partie du même groupe. On a une unité. Le deuxième mot, c'est le mot oint. Probablement que vous connaissez le mot oint, hein, dans l'Ancien Testament. Les prêtres, les rois, étaient oints. Par exemple, Samuel est venu et il a oint Saül, il a oint David, il a versé de l'huile. Hein? Et c'est un exemple pour montrer ici, pour parler de l'onction du Saint-Esprit, qu'on a tous le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 25, il n'y en a pas 50, il y en a un. Et si le Saint-Esprit enseigne quelque chose, il enseigne la même chose à tout le monde. On est unis par le Saint-Esprit. Il va utiliser aussi le mot sceau. Sceau. Sceau qui fait référence à une pratique de sceller les lettres. Hein? On voit ça aussi même au Moyen Âge. On mettait de la cire et il y avait un sceau dans le livre de l'Apocalypse, les sceaux. Hein? Ça atteste, d'abord, ça atteste l'auteur. Si c'est le sceau de, je sais pas moi, le sceau du roi, ça atteste que la lettre vient du roi. Et à partir du moment qu'on l'ouvre, qu'on brise le sceau, ça atteste que nous, on est autorisé. Quand je dis briser le sceau, ça veut dire ouvrir la lettre et regarder ce qu'il y a dedans. Là aussi, ça authentifie l'expéditeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films western, là, qui, de temps en temps, là, il pognait un veau, puis avec un fer rouge, il le marquait. Pas, ça veut dire, ce veau-là est à moi. C'est mon sigle. Moi, je me suis fait tatouer un petit poisson pour. Vous savez, au premier siècle, c'était les chrétiens, ils s'identifiaient avec des poissons. Ictus, c'est un acrostiche. En grec, le mot poisson, c'est ictus, et c'était Jésus Christou Soter Viou Théou. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Et les gens, pour se reconnaître, parce que des fois, tu sais, quand ils s'identifiaient comme chrétiens, ça pouvait mal virer. Et il y en a qui, bon, vous voyez, il y a comme deux bords. Il y en a qui dessinaient quelque chose dans le sable. Et l'autre faisait le restant du signe, qui savait que c'était des croyants. Monsieur Grandjean m'a raconté que dans les prisons des pays de l'Est, dans le temps, pour se reconnaître, les frères ou les sœurs, ils sifflaient un cantique. Bon, je suis pas bon pour siffler, là, mais quel ami fidèle et tendre, tu sais. Et si quelqu'un répond, c'est parce que dans le cantique, c'est un croyant, là, tu sais. Si toi, tu réponds, là, je t'ai spoté, puis je le sais, tu es un croyant, je peux me fier à toi. Fait que c'était ça le sceau. Ça identifie à qui on appartient. Et le dernier mot que Paul utilise, c'est les arts. A. A. Ben, je vais le regarder pour être sûr de les plier comme il faut. Arrhes. Les arts, c'est un acompte. C'est un acompte. Aujourd'hui, on va voir une voiture usagée et on dit, ouais, je la prends, elle coûte, je sais pas, moi, 4 000 piastres, je vais donner 1 000 piastres tout de suite. Or, les arts. Je viens d'y donner un acompte pour garantir la transaction qu'il ne vendra pas à quelqu'un d'autre la voiture que je veux. Et les arts, l'acompte, ça revient encore à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est un acompte de ce que sera notre vie dans le ciel. Donc, Paul utilise 4 termes pour dire on est ensemble, on est sauvé, on est lié, on est incorporé, indissociable. Je vous mentirai pas. Je ne vais pas mentir contre mon propre corps. On fait partie de l'Église. On fait partie du corps de l'Église. Trahir l'Église, c'est se trahir soi-même. Paul n'aurait pas fait ça. 23, 1, 23, aller jusqu'à 2, verset 4. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Il y a une difficulté dans l'Église de Corinthe, on va le voir dans le verset 15, 5 à 12. Il y a un cas de discipline qui doit être appliqué et qui a été appliqué. Mais là, il semble que même si la discipline a été appliquée, il y a des membres de l'Église qui veulent aller plus loin. Vous savez, la discipline, là, c'est essentiel dans l'Église locale. Il faut juger le mal, et si le mal persiste, excommunication. C'est drastique, puis c'est pas drôle, hein? C'est pas le fun de faire ça. On a fait ça une couple de fois, Saint-Jean, puis c'est pas un party pantoute, là. Mais des fois, il faut faire ça. Et l'objectif de la discipline, c'est de rétablir le frère ou la sœur. Et un coup, c'est fait. On réintroduit. Ici, il semble que ça a été fait. Comme je vous dis, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Plusieurs pensent que c'est ce frère qui a fait de l'inceste, qui a été discipliné par l'Église et qui s'est repenti et que les gens ne voulaient pas le ramener. Donc, Paul dit, écoute, si je retourne, là, c'est pas le frère que je vais brasser. C'est tous vous autres. C'est tous vous autres parce que là, vous êtes pas corrects. Je vais m'abstenir de retourner pour tout de suite. Parce que si je retourne, je vais encore vous brasser. Et ça va créer de la tristesse. Et à vous, et à moi. Si je vous attriste tous, qui va me réjouir? Donc, c'est un peu ça que Paul est en train de dire dans les versets 23, aller jusqu'à 2-4. Et pour terminer rapidement, le coupable pardonné, hein, dans les versets 5 à 12, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, Paul dit, ce frère-là a été mis à l'écart, il a été sanctionné, il s'est repenti. Maintenant, c'est le temps de le ramener dans la communion. C'est ça l'objectif de la discipline. C'est pas de mettre quelqu'un là puis d'attendre qu'il meure de faim là puis dire ben on va y faire des funérailles mais qu'il soit mort. C'est de le ramener dans la communion de l'Église. C'est de le sensibiliser à la repentance. Mais un coup que c'est fait, c'est fait. Faut lâcher le morceau là. T'sais. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens, il y en a plusieurs parmi vous qui sont pas contents de l'avoir mis sur discipline, que ce frère-là ou cette sœur-là, mais probablement ce frère-là, s'est repenti, vous voulez encore aller plus loin. Et Paul va utiliser le dernier argument afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et il faut pas oublier, frères et sœurs, que l'ennemi veille au grain. Et si il peut susciter quelque chose, de l'amertume, une quelconque raison de semer le trouble dans l'Église, de créer une division, de créer des factions, des petits groupes, dire, nous autres, on pense comme ça, nous autres, on pense plus comme ça, on n'ignore pas ses desseins. C'est ça son objectif. Un de ses objectifs. De nuire à l'Église locale, de fractionner l'Église locale, d'affaiblir l'Église locale. Et c'est une des façons qu'il utilisait à l'Église de Corinthe. Et en gros, Paul est en train de dire, si j'ai pas retourné chez vous, c'est pas parce que je changeais d'idée, faisais beau en Macédoine, j'ai décidé de me faire bronzer de 6 mois de plus. Pas ça. C'est parce que si je retourne, si j'étais retourné chez vous tout de suite, ça aurait eu des conséquences négatives. Colossiens 4, verset 6 dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et Paul savait quand et comment répondre. Et là, c'était pas le temps. Donc, Paul est pas retourné. C'est ça l'idée de Paul qui défend sa position. Et je vous encourage à, s'il y a des difficultés, que ce soit connues ou inconnues, des fois ça peut être juste entre deux personnes et l'Église n'est pas au courant. C'est jamais entre deux personnes, jamais. Parce que le Seigneur sait, le Seigneur voit. Et c'est pour le glorifier qu'on va s'humilier et se réconcilier. On va prier. Notre Dieu et Père, on est reconnaissant encore une fois pour votre parole. Et certainement qu'on ne veut pas laisser des difficultés venir assombrir nos relations au sein de l'Église locale. Certainement qu'on est, on a un orgueil personnel aussi. Des fois, on peut être affecté, on peut être humilié. Mais comme votre parole nous dit, qu'on puisse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, qu'on puisse regarder l'unité de l'Église comme étant au-dessus de notre orgueil, qu'on puisse regarder la joie et la paix dans l'Église comme un des objectifs non négociables pour personne dans aucune circonstance. On ne veut pas laisser l'ennemi triompher, mais on veut vous glorifier au travers des diverses épreuves que vous pouvez permettre sur notre route. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen.